Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. La mort d'Étienne Moujotte, grand journaliste, ancien directeur de l'information d'Europe 1, patron de presse, puis numéro 2 de TF1, nous reviendrons sur sa carrière exceptionnelle. Le vibrant hommage des Marseillais à Bernard Tapie, des milliers de supporters de l'OM ont accueilli son cercueil au stade Vélodrome. Reportage dans un instant. Bras de fer entre l'Église et le gouvernement sur le secret de la confession. Rien n'est plus fort que la loi, tranche Gérald Darmanin. Les évêques ne semblent pas tout à fait du même avis. Alors que vient d'être publié le rapport sur les abus sexuels dans l'Église. Marine Le Pen tente la riposte face à Éric Zemmour et son envolée dans les sondages. Pour mieux l'affronter, la candidate RN l'appelle à se déclarer, vous l'entendrez. Aucun allègement pour le pass sanitaire avant le 15 novembre minimum. Gabriel Attal appelle à la vigilance face au virus à l'approche de l'hiver. France-Belgique, demi-finale de Ligue des Nations, Cyril de la Morinerie. Les Bleus sont bien mal en point ce soir.
Oh oui, il reste 30 minutes à jouer, ils sont menés 2-0 par les Belges, but de Yannick Carrasco et de Lukaku en première période.
Merci Cyril, on vous retrouve bien sûr en fin de journal. La météo, Marlène Duret vous apportera de bonnes nouvelles. L'invité éco à 22h20, David Ambrosiano, président des Notaires de France, alors que les notaires recrutent. Et puis les unes de vos journaux pour demain matin.
Europe 1.
Il était l'une des plus grandes figures des médias. Étienne Moujotte est mort à l'âge de 81 ans après une carrière d'exception dans la presse et l'audiovisuel. Dans les années 70, Étienne Moujotte avait été le directeur de l'information d'Europe 1. Interviewé en 2007, il s'était souvenu de cette époque.
Moi, quand j'ai pris la tête de la direction de l'information en 74, on voulait changer un certain nombre de choses. Mmh. Et j'ai dit, il y a une chose qu'on ne changera pas, c'est le carillon d'Europe 1 qui marque les heures et qui pour moi était un peu l'ancrage d'Europe 1 dans son histoire. Et donc Europe, c'est une multitude de souvenirs, alors même que je n'y travaillais pas encore, qui a bercé ma vie de jeune homme, d'étudiant, et qui était un petit peu le rêve inaccessible. Est-ce qu'un jour, je pourrais franchir les portes d'Europe 1 et peut-être même un jour parler au micro d'Europe? C'était ça mon rêve à 17, 18 ans, 19 ans.
Étienne Moujotte interviewé sur Europe 1, c'était en 2007 avec Marc Tronchot. Ce rêve, Étienne Moujotte l'a réalisé au centuple, Caroline Baudry. Bien peu d'hommes et de femmes de médias ont eu sa carrière.
Et oui, d'abord jeune journaliste à Paris-Normandie, il intègre les rédactions de France Inter, Europe 1, RTL, Le Journal du Dimanche, Le Figaro et j'en passe. Et puis la vice-présidence de TF1 qu'il transforme en véritable machine à audience. La chaîne s'installe comme leader incontesté de la télévision en France. C'est là qu'il lance de grands noms, Jean-Pierre Pernaut, vedette du JT du 13h, ou encore Jean-Pierre Foucault, la star de l'animation.
À partir du 2 septembre 87, c'est la première sacrée soirée, on a été le premier grand succès de TF1 grâce au flair et au talent d'Étienne Moujotte. Étienne, il savait tout faire. Il était le patron de l'info, il était le patron des programmes et il excellait dans les infos, il excellait dans les programmes. Il aurait été l'artisan avec Patrick Lenet de la première chaîne de télévision d'Europe dès 1987 et sa disparition m'attriste beaucoup parce que je lui dois beaucoup.
Un homme discret sur sa vie privée, décrit comme sensible, cultivé par ceux qu'il avait côtoyé durant sa carrière, qu'il termine à Radio Classique où il raconte avoir réuni ses deux passions, la musique classique et l'information.
Merci Caroline. Ce soir, une grande voix d'Europe 1 rend hommage à Étienne Moujotte. Pour Charles Villeneuve, il collectionnait les talents rares.
Étienne Moujotte, c'est 60 ans de l'histoire des médias, aussi bien de la radio que de la télévision. Ce qui le guidait d'abord avant tout et qui faisait la différence par rapport à tous les autres directeurs généraux des programmes, c'était son bon sens et son sens aigu de l'actualité politique, qu'elle soit française ou qu'elle soit internationale. C'était le prototype même d'un journaliste avec un flair exceptionnel et surtout une mise, si vous voulez, aussi bien en page, puisqu'il a été aussi le directeur général du Figaro. Il a touché à toutes les formes d'information avec succès, chaque fois avec succès. Et nous avons été pour une large part influencés par lui et dans notre métier et même sur le plan de la vie tout court. C'est donc toute une histoire qui disparaît avec lui et surtout une histoire à succès.
La réaction de Charles Villeneuve, grande voix d'Europe 1 ce soir après l'annonce donc de la mort d'Étienne Moujotte à l'âge de 81 ans. Le dernier hommage de Marseille à Bernard Tapie cet après-midi au Vélodrome, tout en blanc et bleu, des milliers de supporters aux couleurs de l'OM ont salué l'ancien président du club, son cercueil au cœur du stade. Au Vélodrome, le reportage de Frédéric Michel et Stéphane Burgat.
Près de 4000 supporters, mais bruyants comme 40 000, qui revoient les images de la finale de l'OM en 1993 face au Grand Milan. Le but de Boli, les larmes de Tapie et l'émotion des supporters.
Regardez le monde qui vient le remercier. Écoutez, un hommage vibrant. Parce que Tapie pour nous, ça aurait été le maire de Marseille. Voilà la place qu'il aurait fallu qu'il ait. Il est mort, mais ici c'est la fête. Vous avez vu la fête qu'on lui fait ? C'est merveilleux, cet unisson. Il y a tout le monde, tous les âges. On est là pour lui, on est là pour sa famille.
Le silence se fait à l'arrivée du cortège, le cercueil de l'ancien président olympien. Sous le regard de sa famille, ce cercueil qui est déposé sur le rond central de la pelouse avec une réplique dorée de la Coupe d'Europe entourée d'une couronne et de gerbes de fleurs blanches. La sono joue Jump de Van Halen, l'hymne de l'entrée traditionnelle des joueurs de l'OM au Vélodrome. Les supporters retrouvent de la voix pour acclamer leur président à grand renfort de fumigène et le cortège qui embrasse le cercueil pour une dernière visite dans ce stade mythique et une sortie sous l'air de We Are The Champions jouée sobrement au violoncelle et les applaudissements nourris des supporters émus par cet hommage intense. Bernard Tapie qui sera inhumé demain à 2,5 km du stade Vélodrome. Marseille, Frédéric Michel, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et les obsèques de Bernard Tapie seront célébrées demain matin 11h à la cathédrale de la Majore. Il sera ensuite inhumé au cimetière de Mazargues dans les quartiers sud de Marseille. Le secret de la confession est-il, oui ou non, supérieur aux lois de la République ? C'est ce qu'a d'abord affirmé le président de la conférence des évêques avant de nuancer son propos ce jeudi. Monseigneur de Moulins-Beaufort, convoqué, ou plutôt invité par Gérald Darmanin à s'en expliquer, au cours d'une visite aujourd'hui à Lyon, la mise au point du ministre de l'Intérieur.
Je voulais réagir au propos de Mgr Moulins-Beaufort qui évoquait que les lois de la République pouvaient être inférieures aux lois des églises. J'ai constaté d'abord que ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit dans son interview. Et donc je ne veux pas moi non plus raccourcir les pensées ou les expressions des uns et des autres. Mais il est évident qu'il y a eu, je crois, de la part de l'opinion publique, une certaine surprise devant en tout cas ce qui a été extrait de son interview. Il a lui-même corrigé et en tout cas compléter ses propos, je l'en remercie. Et donc c'était effectivement pour rappeler, comme je l'ai fait avec les responsables religieux, de toute religion confondue, la République ne reconnaît pas particulièrement un culte, il parle à tous les cultes, que toujours la loi de la République s'impose aux lois des églises. C'est comme ça, c'est la République française. Il ne s'agit pas de convoquer, il s'agit de pouvoir échanger dans une République qui respecte évidemment les cultes et les responsables religieux éminents.
Gérald Darmanin au micro de Jean-Luc Boujon, le ministre de l'Intérieur, recevra donc l'archevêque à Beauvau en début de semaine prochaine, Céline Géraud.
Oui, le ministre de l'Intérieur l'a même appelé directement pour lui demander de venir mardi en début d'après-midi pour s'expliquer, nous dit son entourage. L'un de ses conseillers ajoute « Les propos d'Éric Moulins-Beaufort ont provoqué un certain émoi. À un moment, il faut qu'il précise sa pensée. On ne peut laisser croire que la justice soit entravée. » Dans ses recommandations, Jean-Marc Sauvé demande que les autorités de l'Église formulent un message clair aux confesseurs et aux fidèles. Jamais le secret de la confession ne doit déroger à l'obligation prévue par le Code pénal de signaler aux autorités judiciaires les cas de violences sexuelles. Dans un communiqué publié il y a une heure, le président de la Conférence des évêques de France défend à nouveau le secret de la confession. Un secret professionnel que la République a toujours, selon lui, respecté et qui n'est pas, pour l'évêque, contraire au droit pénal français.
Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Cette grande école n'avait pas connu de scandale pendant le mouvement Balance ton porc. Une enquête a été ouverte à Centrale Supélec pour viol et agression sexuelle. La prestigieuse école d'ingénieurs a saisi la justice après la sidération provoquée par une large consultation des élèves. Consultation qui révèle une centaine de cas d'agression sexuelle et de viol au cours de la seule année 2020-2021. Il ne faut jamais se réjouir trop tôt, c'est une forme de sagesse héritée du Covid, dira-t-on. Le pass sanitaire ne sera pas allégé avant le 15 novembre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'a confirmé ce matin à la sortie du Conseil des ministres.
L'heure de lever toutes les mesures, toutes les contraintes n'est pas venue. Dans près d'une trentaine de départements, l'épidémie ne recule plus. Nous sommes tombés à un niveau très bas, mais ne recule plus, voire repart très légèrement à la hausse. Notre vigilance doit rester total, nous savons que le virus aime l'hiver et que le froid arrive. S'agissant du pass sanitaire, vous le savez, nous avons demander un avis au Conseil scientifique qui nous appelle à une certaine prudence. Si adaptation du pass il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. La troisième dose de vaccin ouverte à tous les soignants. Le gouvernement a suivi la Haute Autorité de Santé. Troisième dose conseillée, mais pas obligatoire. Près de 3 millions de soignants sont concernés par cette campagne de rappel vaccinal. Retenez aussi qu'arrive bientôt la fin de la gratuité des tests anti-Covid à partir du 15 octobre. Les tests PCR coûteront 44 euros. Les tests antigéniques, 22 euros minimum pour les personnes non vaccinées ou sans ordonnance. La gratuité des tests devrait être maintenue pour les mineurs. Déclassée par Éric Zemmour dans les sondages, Marine Le Pen cherche toujours la réplique. La candidate du Rassemblement national jouait aujourd'hui son amour du terrain au sommet de l'élevage près de Clermont-Ferrand, le plaisir d'être au milieu des agriculteurs contre les commentaires de plateau. Marine Le Pen a d'ailleurs un message pour Éric Zemmour. Elle l'appelle à se déclarer candidat.
Ce qu'on doit aux Français, nous autres candidats à la présidentielle, c'est de leur présenter un projet pour assurer leur sécurité, leur protection, leur liberté. Donc c'est ce à quoi je m'attelle en ce qui me concerne. Et j'attends que chacun maintenant soit candidat et avance véritablement des propositions et sorte du constat. Pour l'instant, je ne vois pas la plus-value qu'Éric Zemmour apporte en matière d'immigration et d'insécurité, qui sont les deux seuls sujets sur lesquels il s'exprime. Je ne vois pas de plus-value par rapport au projet très construit qui est le nôtre.
Oui, un projet très construit, mais une réponse à Éric Zemmour qui se cherche toujours. Marine Le Pen affiche calme et sérénité, mais en coulisses, Louis Dragnel, on est plus proche de stupeur et tremblement.
C'est exactement ça. Entre les saillies d'Éric Zemmour qui dit qu'elle est sûre de perdre et le sondage publié hier qui la disqualifie au deuxième tour de la présidentielle, en ce moment, c'est très dur pour Marine Le Pen. Mais en allant au contact des Français aujourd'hui, elle veut montrer physiquement qu'elle n'est pas atteinte et qu'elle est réellement habitée par le calme des vieilles troupes, comme elle le répète souvent. Ce qui est intéressant maintenant, c'est presque systématique. Marine Le Pen relaye qu'on ne peut pas la comparer à Éric Zemmour puisque elle est candidate et lui ne l'est pas, en tout cas pas pour le moment. Et puis, elle met en avant son expérience pour mieux souligner que le journaliste n'en a pas. Un argument à double tranchant puisque Éric Zemmour en profite justement pour rappeler entre les lignes qu'elle est là depuis trop longtemps et qu'elle a fait son temps. Pour terminer, Marine Le Pen insiste sur le fait que l'élection présidentielle n'a pas lieu demain, ni même après-demain, mais dans 200 jours, ce en quoi elle n'a pas tout à fait tort. Un argument aussi qui est très relayé par l'entourage d'Emmanuel Macron. Preuve, s'il en fallait, que Macron comme Le Pen ont plus que jamais cette volonté commune de s'affronter au deuxième tour de la présidentielle.
Merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Le silence de la salle au procès du 13 novembre devant les témoignages des survivants du Bataclan. À la barre aujourd'hui, un couple très grièvement blessé pendant les attaques. Gladys Laffitte, vous avez écouté le témoignage de Pierre Sylvain et de sa compagne.
Ah oui, cet homme de 54 ans, veste et chemise noire, grosse bague en argent au doigt, a raconté comment il a d'abord échappé au déluge de balles en plongeant dans la Régisson avec sa compagne pour la protéger grâce à ses réflexes militaires. Mais un tireur s'approche, exécute des gens au sol. Il a regardé dans notre direction, j'ai vu une gerbe de sang sur la tête d'Hélène et là j'ai pris une balle. Elle me dit qu'elle est touchée, c'était un trou noir, elle n'avait plus de nez, son œil droit avait explosé. Pourtant ils sont conscients et l'adrénaline pousse Pierre Sylvain à les sortir de là à tout prix. On est resté 12 minutes sous le feu, c'était l'enfer, dit-il. Ils apprennent plus tard qu'ils ont chacun été visés à la tête, chacun atteint par une balle qui a transpercé la joue pour Pierre Sylvain et la tempe pour Hélène. Elle subit 14 opérations en tout. Ils sont soignés ensemble à l'hôpital et décident de renouer très vite avec la vie. Aussi grâce à des petits miracles médicaux, dit Pierre Sylvain. Il reste des opérations, mais aujourd'hui, Hélène a enfin retrouvé un visage et lui sourit enfin à la barre.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre. Elle se compare à des machines, c'est dire le mal-être qui a gagné les sages-femmes dans l'exercice de leur métier. Elles étaient des milliers à manifester aujourd'hui à Paris, jusque sous les fenêtres du ministère de la Santé. Les sages-femmes qui se voient comme les grandes oubliées du quoi qu'il en coûte. Pas de moyens dans les maternités, elles demandent plus d'effectifs et elles vous expliquent pourquoi.
On n'a plus le temps de s'occuper des patientes, on enchaîne les accouchements, on leur demande d'arrêter de pousser parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'elles.
Comment voulez-vous qu'une jeune sage-femme qui a envie d'y aller et à qui on va dire « alors tu vas faire les nuits, les week-ends, les jours fériés, tu passeras pas Noël chez toi et si tu passes Noël chez toi, tu passeras pas Nouvel An ». Toute sa vie, c'est comme ça.
14 ans d'ancienneté, je fais des jours, des nuits, des week-ends, des fériés et au mois de septembre, j'ai gagné 2200 euros.
On attend déjà d'être reconnu médical et qu'on ait un statut en tant que tel, que ça puisse être reconnu dans les établissements.
Voilà, les témoignages de sages-femmes qui manifestaient aujourd'hui à Paris au micro d'Arthur Pereira et Harold Caron. Après le Brexit, y aura-t-il un Polexit ? La Pologne questionne son appartenance à l'Union européenne. Ce jeudi, le tribunal constitutionnel polonais a décidé que certains articles des traités européens sont incompatibles avec les lois du pays. C'est une décision inédite. Les Belges cherchent leur revanche sur les Bleus ce soir en demi-finale de Ligue des Champions. France-Belgique en direct de Turin. Cyril de la Morinerie, on est proche de la fin. Avec un retour au score spectaculaire des Bleus qui étaient dominés jusqu'ici.
Eh oui, ils reviennent de l'enfer, si je puis dire, nos Bleus face aux Diables Rouges. Ils étaient menés 2-0 après cette première période durant laquelle eh bien, les Belges ont marqué deux buts à la 37e minute, but de Yannick Carrasco. À la 40e minute, un autre but de Lukaku, deux passes décisives du meneur de jeu Kevin De Bruyne. C'est un génie ce garçon qui joue à Manchester City. Mi-temps, les Bleus reviennent toujours dans le même 11, la même organisation. Mais là, eh bien Benzema et Mbappé font parler la poudre. À la 61e minute, Karim Benzema, dans la surface de réparation, arrive à se retourner alors qu'il y avait deux, trois joueurs belges autour de lui, à frapper une frappe croisée et il marque donc son 32e but avec l'équipe de France. Et puis quelques minutes plus tard, à la 66e minute, eh bien, Griezmann arrive dans la surface de réparation et il est bousculé par un joueur belge, Tielemans, qui touche le pied, la cheville du joueur français qui s'écroule dans la surface de réparation. L'arbitre va consulter la VAR, le petit écran au bord du terrain, et il revient, il signale, il siffle le pénalty qui a été transformé par Kylian Mbappé, une frappe en pleine lucarne pour sa 50e sélection en équipe de France. Jamais aucun joueur n'avait réussi à avoir 50 sélections à seulement 22 ans, et il n'a pas tremblé. Il a marqué après 6 matchs sans faire trembler les filets avec l'équipe de France. Et bien Kylian Mbappé a donc marqué ce but de partout, même si les Belges restent extrêmement dangereux. On l'a vu avec une frappe de De Bruyne détournée par un excellent Hugo Lloris ce soir. 75 minutes de jeu de partout entre la Belgique et l'équipe de France. Quel match!
Quel match et quel suspense! Merci Cyril de la Morinerie en direct de Turin. Le temps pour ce vendredi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Même pas mal, Marlène Duret. On va avoir une belle journée demain.
Mais écoutez, oui, Alexandre, les conditions anticycloniques vont favoriser l'ensoleillement. Mais nous sommes en automne et vous savez que à cette période de l'année, les conditions anticycloniques favorisent aussi les brouillards et autres phénomènes de grisaille. Au petit matin, on en trouvera des grisailles très compactes, accompagnées parfois de brouillards entre le Limousin, l'Auvergne, le Lyonnais et la Haute-Savoie. Des brumes et brouillards également attendus le long de la Garonne, très localement dans le Poitou, en région centre, en Île-de-France. Une matinée nuageuse aussi de la Bretagne au département proche de la Manche jusqu'aux côtes belges. Et puis l'amélioration va vite gagner toutes ces régions. Les éclaircies finiront par s'imposer, de belles éclaircies. Merci d'ailleurs. En Corse, en revanche, non, là, le temps va rester nuageux toute la journée. Il faut dire qu'il ne fait pas très beau du côté de l'Italie et que ça a une influence, un impact sur l'île de Beauté. Et partout ailleurs, le soleil sera au rendez-vous dès les premières heures du jour. Quant au thermomètre, attention, il fera froid demain matin.
Ah ben, on est en octobre quand même.
Oui, voilà, le ciel est dégagé. Quand il est dégagé, malheureusement, la chaleur s'échappe et bon. Il n'y a pas de couverture nuageuse pour maintenir ces températures au-dessus de 10 degrés. Les maximales, allez rapidement, oui, parce que je suis trop bavarde. 14 degrés au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Il fera 17 à 20 en général, avec 21 à 22 plutôt près des côtes atlantiques. Et ça peut même monter jusqu'à 25 près de la Grande Bleue.
Merci Marlène. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. L'invité éco, nous serons avec David Ambrosiano, président des notaires de France. Juste avant, ce sera Top à Wall Street avec Claire Lemaître.
Europe Nuit. Informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street. Bonsoir Claire Lemaître de Boursier.com.
Bonsoir Alexandre.
Troisième séance de rebond à Wall Street. L'accord trouvé au Congrès américain sur le plafond de la dette soulage les investisseurs.
Oui, c'est le soulagement à Wall Street après cet accord au Congrès qui écarte pour le moment tout risque de défaut de paiement des États-Unis sur leur dette fédérale. Le Dow Jones monte donc de 0,98%. Le Nasdaq, lui, gagne 1,05%. 14 654 points. Très belle performance ce soir des valeurs chinoises cotées à Wall Street après l'annonce d'une rencontre virtuelle entre le président chinois et Joe Biden. C'est prévu d'ici à la fin de l'année. Baidu, le moteur de recherche chinois, bondit de 5%. Alibaba, le géant du e-commerce, s'envole de 8%. Les investisseurs espèrent bien sûr un réchauffement diplomatique entre Washington et Pékin.
Ouais, volatilité toujours très forte à Paris, Claire. Après une séance difficile hier, le CAC 40 remonte et retrouve déjà la barre des 6600 points.
Ouais, c'est difficile de suivre les montagnes russes à Paris. Le CAC 40 reprend donc 1,26% et termine à 6600 points. Les valeurs automobiles qui font le yo-yo en ce moment suivent le mouvement. L'équipementier Valeo bondit de 5,6%. Citigroup a rehaussé son opinion sur la valeur à neutre. Et puis côté constructeur, Renault gagne 2,4% et Stellantis plus 3,8%.
Enfin, une séance difficile pour l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft.
Ouais, c'est une déception pour Ubisoft après la sortie du dernier opus de la saga Far Cry sur PC et console. C'est le seul blockbuster de l'année pour l'éditeur de jeux vidéo à cause de la crise sanitaire. Il est donc attendu au tournant et le problème pour les investisseurs, c'est que les premières critiques du jeu sont assez mitigées et donc l'action Ubisoft lâche un peu plus de 6%. Ailleurs en Europe, les marchés retrouvent le moral. Londres reprend 1,2%, Francfort plus 1,8%, Amsterdam plus 2% et à Paris, le CAC 40 reprend 1,3%, 6600 points.
Merci Claire Lemaître. C'est l'une des professions qui profite de la reprise économique. Les notaires recrutent. L'invité éco ce soir, David Ambrosiano, président des notaires de France. Il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir David Ambrosiano.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président des notaires de France. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que j'ai été étonné. Vous faites partie de ces professions qui manquent également de bras en ce moment. Alors déjà, de façon concrète, il vous manque combien de personnel dans vos offices notariales en ce moment, Maître Ambrosiano ?
Alors, on estime actuellement à peu près entre 3000 et 5000 la pénurie de collaborateurs dans nos offices.
Mais comment ça s'explique ?
Bah, ça s'explique par le phénomène suivant, enfin deux phénomènes. Tout d'abord, on a eu une loi croissance qui date de 2015 qui a fait que le nombre de notaires a considérablement augmenté. On a plus 50% de notaires en plus en l'espace de 3 ans, plus 50% d'offices, plus 62% de notaires. Et bah, tous ces notaires, c'était des collaborateurs d'études qui se sont eux-mêmes installés et qui, en s'installant, ont eux-mêmes fait venir avec eux d'autres collaborateurs techniciens, parfois, de ces études.
Et on n'avait pas suffisamment anticipé la formation de tous les personnels.
Ben, le seul problème, c'est qu'en l'espace de 3 ans, on a créé 2227 nouveaux offices. Donc 2227 nouveaux offices, si vous comptez également 1 à 2 collaborateurs, voire 3 collaborateurs par office, vous avez un chiffre qui multiplie tout ça, qui est quand même relativement conséquent. Et on ne peut pas produire autant de collaborateurs en un temps si court. C'est quasiment impossible.
Alors du coup, ce que vous mettez en place, là, en ce moment, ce sont des dispositifs de formation pour de nouveaux collaborateurs qui ne viennent pas obligatoirement de l'horizon du notariat. Alors ça, déjà, j'étais assez étonné. Je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir fait l'école du notariat ou quelque chose comme ça pour pouvoir intégrer vos formations. Vous pouvez faire une formation parallèle ?
Alors, il faut bien repositionner le débat. Aujourd'hui, dans ces 3000 à 5000 postes qui nous manquent, ce sont essentiellement des postes de techniciens. Techniciens, c'est quoi ? C'est des postes de rédacteurs d'actes, des collaborateurs juridiques attachés à la rédaction des actes, aux formalités préalables, aux formalités postérieures, parfois à la comptabilité également. Pour ces postes-là, il n'est pas nécessairement besoin d'avoir fait de longues études de droit, mais parfois une formation en interne dans l'office est une excellente formation. Cette formation que l'on veut courte, qui est une formation de 70 heures, 80% en distanciel et 20% en présentiel, c'est donné véritablement à des collaborateurs qui ne viennent pas nécessairement de l'horizon du notariat. Ça peut être quelqu'un qui vient de la restauration, du commerce, peu importe, et qui veut explorer un univers nouveau qu'il ne connaît pas et qui l'intéresse. Mais avec cette formation, il donne
mais
des
de
bases.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut même pas une sorte de mini connaissance du droit, parce que là vous citez des secteurs par exemple comme celui de la restauration qui est quand même extrêmement loin du notariat, et même si ce n'est entre guillemets que de la rédaction d'acte, j'imagine que c'est quelque chose de très contraint par la loi, faut pas se tromper quand même. Donc
exactement, j'insiste bien sur le fait que ce sont des postes de techniciens essentiellement, donc ils sont toujours faits sous la supervision soit d'un cadre qui est un diplômé notaire, soit du notaire lui-même, bien entendu. Et ce sont des postes qui sont des postes supervisés systématiquement. Donc ça, il faut le préciser.
Et on peut progresser ensuite, une fois qu'on est rédacteur d'actes, on peut finir comme notaire associé ou notaire ?
Alors, Là, le parcours sera quand même relativement long, hein, surtout si on vient d'études qui ne sont pas du tout celles du notariat. Cette formation flash, j'insiste bien, elle est là pour donner des bases en déontologie notariale, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos règles, des bases aussi pour utiliser les outils de la profession et comment fonctionne un office notarial. Mmh. Là, vous êtes opérationnel déjà pour faire des tâches simples, mais la formation la plus importante de toutes, c'est celle qu'on va vous donner au sein de l'office, c'est la formation que vous donnera le notaire lui-même, que vous donneront également les collègues qui eux-mêmes sont des cadres et qui sont des diplômés. Et là, on peut progresser, bien entendu qu'on peut progresser, puisqu'on a une formation ensuite en interne qui permet, par les écoles de notariat, de pouvoir obtenir des diplômes qui peuvent aller jusqu'au diplôme de notaire avec des équivalences. Vous pouvez reprendre également des études universitaires. Et tout ça, si vous avez la passion du métier et que vous voulez aller plus loin et que vous vous en donnez les moyens également, on va dire en termes d'efforts à accomplir, vous pouvez tout à fait un jour, pourquoi pas, devenir notaire.
Alors, si nous avons voulu être en ligne avec vous aussi ce soir, c'est parce que là, vous allez lancer d'ici quelques jours Notaire Info. Alors, c'est quoi Notaire Info ? C'est un service qui permet d'apporter des informations juridiques un petit peu à tout le monde dans la France entière. Vous répondez comme ça, je crois, à une demande du ministère de la Justice qui voulait que vous vous rapprochiez des Français, que vous puissiez apporter des informations de première nécessité, si je peux le dire ainsi. Et ça y est, vous le lancez donc ?
Et on le lance demain, donc 8 octobre. Ce service Notaire Info, effectivement, c'est un service d'information juridique de premier niveau. Ce n'est pas un service de conseil juridique, c'est de l'information juridique de premier niveau. Et force est de constater, parce qu'on avait déjà expérimenté ce système, que dans 80% des cas, on répond aux questions qui nous sont posées. Et quand on n'arrive pas à y répondre, en tout cas qu'on ne peut pas y répondre parce que ça nécessite un conseil particulier, et bien là, on dirige à ce moment-là la personne qui a appelé vers le professionnel qui sera le plus apte à répondre. Mmh. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat également, ça peut être un expert comptable, mais ça sera le professionnel le plus apte à répondre. Mais dans 80% des cas, les réponses sont apportées. Et pour répondre à votre question, oui, on a répondu à la demande du ministre de la Justice. Et c'est un service, Notaire Info, qui sera en relation aussi avec les maisons France Service et les points d'accès au droit.
Et c'est un service qui sera gratuit pour ces informations de première nécessité ?
Et non, ce n'est pas un service gratuit parce qu'il faut bien payer des consultants qui sont des consultants chevronnés qui vont répondre à ces questions. Mais le coût reste modique puisqu'on est sur une tarification qui est de 80 centimes d'euros TTC la minute.
D'accord, 80 centimes d'euros par minute. Alors par ailleurs, vous avez beaucoup de travail en ce moment du côté des notaires. Vous aussi, vous vivez une période totalement historique du côté de l'immobilier. Jamais vous avez vu autant de dossiers vous arriver sur la table de vos offices.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de dossiers, mais il y a aussi beaucoup plus de notaires qu'on en avait il y a 3 ans. Mais le volume d'affaires de l'immobilier a effectivement considérablement augmenté en l'espace maintenant de 2 ans, si on met entre parenthèses la crise sanitaire. Mais en fait, c'est un volume qu'il faut toujours mettre en perspective du nombre total de biens immobiliers qui existent en France. Et en fait, quand on le met en perspective du nombre total, on s'aperçoit que le volume est en cohérence. Ce pourcentage a toujours été de 3 à 3,5%. C'est-à-dire que le nombre de transactions annuelles est en général de 3 à 3,5% du parc immobilier national. Et bien en fait, on a produit quand même pas mal de logements dans les dernières années. Et aujourd'hui, vous avez une augmentation du nombre de transactions, mais qui reste globalement en cohérence avec le parc immobilier national.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était David Ambrosiano, le président des Notaires de France. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1.
Merci.
Nous, on se retrouve lundi 22h20.
Et merci à vous, Emmanuel. On retient ce rendez-vous exceptionnel demain dès 13h dans La France Bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag. Emmanuel, vous recevrez Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, alors que les toutes premières universités, entreprises, écoles se tiennent jusqu'à ce vendredi à Poitiers avec cet objectif. Comment mieux former les élèves et comment les familiariser au mieux avec le monde de l'entreprise.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Un rapide coup d'œil aux unes de la presse pour demain matin, vendredi. La gauche divisée craint la marginalisation, titre Le Figaro. Jamais la gauche n'a été aussi faible à l'approche d'une élection présidentielle. Une nouvelle fois, elle pourrait être exclue du second tour. Le gros titre de l'opinion, Édouard Philippe, l'ex-premier ministre qui lance samedi son parti, ce qui crée des tensions au sein de la Macronie. Édouard Philippe, mûrir ne peut attendre. attendre. Bravo à l'opinion pour ce clin d'œil au dernier 007. Libération se mobilise pour Olivier Dubois, journaliste retenu en otage au Mali depuis 6 mois. C'est 6 mois de trop, titre Libé. La mobilisation s'amplifie pour obtenir la libération de notre confrère. Des banderoles sont déployées dans de nombreuses grandes villes françaises. Enfin, à la une de La Croix, il est question également de la présidentielle, avec un zoom sur la présidentielle à Reims quand la campagne commence. Jusqu'à l'élection, La Croix se propose d'aller à la rencontre des Rémois, justement les habitants de Reims, avec demain à la une les supporters du Stade de Reims qui confient leurs attentes pour 2022. À la une des Échos, il est question du climat avec le défi de l'aviation zéro émission. Compagnies aériennes, avionneurs et motoristes se sont engagés collectivement à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Le renouvellement de la flotte mondiale d'avions jouera évidemment un rôle clé dans cette perspective. Il est 22h31, on retrouve Cyril de la Morinerie en direct de Turin. Cyril, les dernières nouvelles de France-Belgique en demi-finale de la Ligue des Nations.
Il reste une minute dans le temps réglementaire, de partout entre la Belgique et la France, sueur froide pour les Français.
Cyril, on a perdu Cyril, on a perdu la liaison avec Cyril de la Morinerie. On en est à toujours 2-2, Belgique-France, ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions.
Et Olivier, on vient de taper sur la barre. Regardez-moi ça. Boum.
Voilà, on suit ça en direct, hein, dans le studio avec vous, Olivier.
Exactement.
Suspense insoutenable. Hein.
Suspense insoutenable et à mon avis, Cyril a totalement disjoncté.
Voilà. C'est possible.
Ça a touché la barre et bim, on l'a plus entendu. Ouais. Écoutez, en tout cas, c'est un bien beau match et comme on sait qu'Europe 1 est très écouté en Belgique, on salue nos amis belges aussi et on partage ce grand match avec eux. Ça va, vous ?
Ça va très bien. Bon, ça va très bien. Les Belges cherchent la revanche. Moi, j'espère toujours la victoire des Bleus, mais ça va.
Eh ben voilà, la victoire de la France. 3-2, on vous l'annonce. Cyril n'est pas en direct. On vient de vivre en direct ce
but. 90 minutes pile.
Exactement. On va encore... Je dois vous présenter mes excuses, amis belges. Ça n'est pas pour ce coup-ci encore. La France gagne ce soir encore contre la Belgique. Voilà.
Bon, c'est une défaite rageante pour les Belges. Il y a encore quelques minutes à jouer.
Il y a encore quelques minutes.
4 minutes.
Il faut se méfier. Bon, moi, je suis très content. Vous le savez. En plus, pour conjurer le sort, vous savez que je mets le survêtement de la Belgique ce soir.
Vous auriez du mal à prétendre le contraire, vu le large sourire sur votre visage, Olivier.
Exactement. Surtout que nous étions menés 2-0. Bon, comme je sais qu'il y a une grande partie de la communauté de la Libre Antenne qui n'est pas foot-foot, on va attaquer et puis je vous donne rendez-vous pour votre flash tout à l'heure à 23h. Salut, à tout à l'heure.